Chapitre 33. Pour pallier leurs points faibles, les Aréliens ont développé toute une batterie d'armes, de tactiques et de mutations monstrueuses qui évoquent une petite bande de super méchants. Tiré de l'article Spider-Woman, Burkhardt Bilger, New Yorker, 5 mars 2007. Mac l'appela peu après le dîner. Kimberly venait de regagner sa chambre au Smith House en se disant, pour une fois, que les tailles élastiques étaient la plus belle invention du monde moderne. Elle avait englouti presque un poulet rôti entier, 500 grammes de gombo et 2 parts de cheesecake, et pourtant son pantalon lui semblait large et même ample à l'heure où bébé McCormack commençait son petit jeu du soir consistant à piétiner la rate de maman. Rainy et Quincy s'étaient déjà retirés pour la nuit, mais Kimberly, en proie à l'agitation qui la prenait juste avant qu'une affaire ne soit résolue et qu'elle ne découvre enfin la réponse qu'elle attendait depuis le début, avait les nerfs en pelote. Sa chambre d'hôtel spacieuse, nichée sous les avant-toits de la vieille bâtisse, formait un long L, idéal pour tourner en rond fébrilement. Elle marcha du lit king size au bureau, puis au lit, et ainsi de suite, caressant son ventre gonflé, le cerveau en ébullition. Si Sandy Springs était le terrain de chasse de Dinecara, Dahlonega était son antre. D'un jour à l'autre à présent, ils allaient consulter le bon fichier, interroger la bonne personne, et la dernière pièce du puzzle prendrait sa place. Ils trouveraient Ginny Jones, les disparus, Dinecara lui-même, son portable sonna, le numéro de Mac s'afficha. Aussitôt, elle s'arrêta de faire les 100 pas et son ventre se crispa nerveusement. Irritée, elle rafla le téléphone et répondit d'une voix forte « Kimberly ?» De la friture, 3 clics, un bourdonnement plein d'écho. « C'est moi !»« Salut chérie » dit-elle plus fort que nécessaire. « Où es-tu ? » ?»« Encore à Dahlonega, quelques dernières visites à faire au saut du lit demain matin. » « Quel temps ? Il pleut des trombes. Et toi ? Dois y aller, mission spéciale, rentrer, demain matin. Quoi ? Je reçois super mal. Tu peux essayer un autre endroit ?» Elle crut entendre un crissement de pied, d'autres bruits en fond sonore, comme des hommes qui crieraient des ordres. Alors elle comprit. Le travail du soir, sa mission spéciale. Mac et la brigade des stupes étaient sur le point de se déployer, très probablement pour prendre d'assaut ce qu'on soupçonnait être un repère de dealer ou une fabrique de cristal. Et il l'appelait maintenant, parce que c'était ce que faisaient les gens mariés juste avant d'enfiler leur gilet pare-balles et d'y aller. Ils passaient le dernier coup de fil à la maison, mettaient leur vie personnelle en ordre, juste au cas où. Le bébé palpita sous la main de Kimberly, qui s'assit au bord du lit. « Où ?» murmura-t-elle. « Impossible, parler plus tard, matin. » « Les forces spéciales sont là ?»« La totale. »« Mac !» Elle aurait dû dire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle était un foutu de trouver. Et tout à coup, elle prit conscience de ce fossé toujours sensible entre eux. Les questions laissées sans réponse, les silences prolongés. Elle aurait voulu être chez elle. Cela ne semblait pas bien de faire ça au téléphone. Ils auraient dû être dans leur maison, où elle aurait pu le serrer assez fort pour qu'il sente le bébé bouger, où il aurait pu lui chuchoter à l'oreille qu'il l'aimait, où elle aurait senti le chatouillis de son souffle sur sa peau tandis qu'elle écartait les doigts sur son cœur battant. La vie peut basculer en un instant. Un être cher peut franchir la porte et ne jamais revenir, elle le savait. Elle se rendait sur les tombes 2 fois par an pour être sûre de ne jamais l'oublier. « Sois prudent, » murmura-t-elle. Tout, our. Tu appelleras ? J'essaierai. Maison ? Demain après-midi, peut-être. Il faut qu'on aille à la pisciculture, qu'on consulte les archives. Te sens ? Le bébé est contente. Je sens qu'elle est plus vigoureuse maintenant, elle bouge plus. Oh, elle est carnivore. Je suis enfin autorisée à manger de la viande. Le petit rire de Mac lui arriva haché à cause de la mauvaise liaison. Ce rire lui rendit Mac plus proche. Elle imaginait les rides au coin de ses yeux, la courbe de son sourire. « Je t'aime, » dit-elle. « T'aimes aussi. » Puis le téléphone bipa et la communication fut coupée. Elle n'essaya pas de rappeler. Mac avait une mission à remplir. Quant à elle... Assise seule dans sa chambre d'hôtel, elle se demanda pourquoi, si elle aimait tant son mari, il lui paraissait tellement loin. À quel moment la distance devient-elle si grande qu'il ne s'agit plus d'une simple phase dans la vie d'un couple, mais d'une nouvelle position des astres? Et qu'est-ce qu'une sacrée tête de pioche comme elle était censée faire pour y remédier? Bébé McCormack tressaillit. Kimberly se massa le ventre en écoutant le vent hurler dehors sur le parking, faisant trembler les vitres. Elle enfila son blouson et sortit. Elle trouva Sal assis sur la terrasse couverte, à l'abri du vent qu'il regardait faire tourbillonner des trombes d'eau autour des réverbères. Kimberly s'assit sans rien demander, se disant qu'elle n'avait pas délibérément cherché Sal. Ce n'était pas pour ça qu'elle avait quitté sa chambre, ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. De son côté, Sal ne semblait pas d'humeur bavarde. Il se contentait d'observer l'orage, le visage figé dans cette expression maussade, morose qu'elle lui avait déjà vue. Ses réflexions l'avaient menée dans de tristes contrées. Elle se demanda depuis combien de temps il s'y trouvait. « Tu as mangé du poulet ?» dit-il au bout d'un moment. « Je croyais que le bébé n'aimait pas la viande. » Elle a changé d'avis, encore une preuve que c'est une fille. Il se tourna finalement vers elle et son regard se posa sur son ventre arrondi. « Tu as la trouille ?»«
Ouais. »
« Tu travailleras après la naissance ?»«
A priori. »
Il la regarda avec plus de curiosité. « Tu crois que ça va te changer ?»« Enfin, la première fois que tu seras appelée sur un meurtre impliquant des gamins, ou sur une affaire d'enlèvement d'enfants, de réseau pédophile, d'incendie criminel, ou n'importe laquelle de ces merdes qui nous guettent et brisent de jeunes existences, ça ne sera pas difficile ?»« Je pourrais aussi bien être la victime, » murmura-t-elle. « Un peu court comme réponse, » observa-t-il. Tu fais partie des équipes de relevé d'indices, non? C'est toi qui récupères les cadavres. Et ensuite, tu iras retrouver la petite Janie chez toi en faisant comme si tu pouvais enlever cette odeur de tes mains. Sans parler d'effacer l'image dans ta tête. C'est ce que je fais maintenant. Il n'y a pas de petite Janie. L'arrivée de la petite Janie est censée être un heureux événement. Pourquoi est-ce qu'une bonne chose devrait rendre le reste du monde plus difficile à supporter? Il la regarda d'un air renfrogné, manifestement désarçonné par l'argument. Au bout d'un moment, ne trouvant rien à répliquer, il se remit à observer les éléments déchaînés. Et après encore quelques instants, elle lui prit la main et la posa sur son ventre juste au moment où bébé McCormack décochait un petit coup. Sal retira brusquement sa main et se leva d'un bond. « Putain de merde ! Assez costaud, hein ? Qu'est-ce que c'est, une championne de foot ?» Peut-être, je ne sais pas. Elle peut devenir tout ce qu'elle veut. Je crois que c'est tout l'intérêt. Tu as déjà entendu parler de la banalité du mal, Sal?
La banalité du mal?
Oui. Un psychologue a fait une expérience, une fois. Il a pris un groupe de jeunes gens bien propres sur eux, tous connus pour leur grand sens moral, et il leur a demandé de former une fausse prison. Certains sont devenus détenus, d'autres gardiens. Ils ont essayé de rendre ça le plus réaliste possible. Les gardiens ont arrêté les prisonniers pendant les cours, ce genre de choses. L'expérience était censée durer quelques semaines. Si je me souviens bien, le professeur a dû l'interrompre au bout d'à peine 3 jours parce que les pseudo-détenus commençaient à faire des dépressions nerveuses à cause des mauvais traitements bien réels infligés par leurs pseudo-gardiens. Des habillages, humiliations, sévices sexuels et j'en passe. Le tout de la part de jeunes gens qui n'avaient jamais ne serait-ce que volé à l'étalage. Au fond, même les braves gens font vraiment de très vilaines choses s'ils croient que tout le monde s'en fiche. La banalité du mal.
Tu parles des nazis ? Grommela Sal.
Je parle de la nature humaine. Du fait que tout le monde a en lui la capacité de faire le mal. Certains ne l'exprimeront jamais, d'autres si, évidemment, et d'autres encore ne le feront que si les bonnes circonstances se présentent. Pendant 20, 30, 40 ans, ils seront de braves et honnêtes citoyens. Mais dans la 41e année,
Tu trouves ça réconfortant comme idée ? Qui a dit que je cherchais à être réconfortante ? C'est une réalité. Et je ne vais pas commencer à jouer les autruches sous prétexte que je vais bientôt devenir mère. Le monde est cruel. Les gens sont lamentables. Il y a réellement des monstres sous le lit. Ou, à dire vrai, dans la chambre de papa, au bout du couloir. Mais tu veux que je te dise ? Si je me suicide tout de suite, ça m'évitera de souffrir plus tard ? Il y a un corollaire à la banalité du mal. C'est la banalité de l'héroïsme. Pitié, tu vas pas me faire le coup du Superman. En fait, je parle du contraire de Superman. Je parle de Monsieur Tout-le-Monde, qui un beau jour, parce que les conditions sont réunies, sauve la mise. De l'inconnu sur le quai du métro qui saute pour aider un banlieusard tombé sur les rails. De la femme qui fait ses courses dans un magasin et ne se contente pas de remarquer la petite fille triste, mais appelle la police. Chaque acte de cruauté est contrebalancé par un acte de courage. Ça aussi, c'est la nature humaine. Ta mère et ta sœur ont été assassinées, souffle la salle. Donc tu vas sauver le reste du monde ? Je n'ai pas besoin que tu me racontes mon histoire, salle. Je sais qui je suis. Salle rougit. Son regard se reporta sur l'orage, mais ses mains s'agitaient sur ses genoux. Je ne vais pas renoncer, Mac. Ce n'est pas mon genre. Tu viens de m'appeler Mac. Jamais de là. Mais elle s'interrompit, s'apercevant que c'était exact. Et ce fut son tour de rougir. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Elle aurait dû retourner dans sa chambre, faire quelque chose. Mais elle resta là où elle était, à côté de Sal, dont elle voyait les mains s'agiter, à sentir l'obscurité le quitter par vagues successives. Et l'idée lui traversa l'esprit pour la première fois. La banalité du mal, était-ce pour cela qu'elle était ici ? Pour attendre que les bonnes circonstances se présentent afin de pouvoir faire ce qu'elle savait ne pas devoir faire ? Toucher le visage de Sal ? Le tourner vers elle ? Trouver ses lèvres avec les siennes parce que quelque chose en lui parlait à quelque chose en elle ? La douleur ? Ou bien peut-être la colère ? Le besoin ? Un besoin profond, infini. Parce que quelque chose avait mal tourné des années plus tôt et qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire que de soigner la plaie. Elle avait envie de lui. Ou du moins, il l'attirait. Elle en fut inquiète. Effrayée. Elle songea à un autre article de psychologie qu'elle avait étudié à l'université. La plupart des gens n'ont aucun besoin de la cruauté d'inconnus pour foutre leur vie en l'air. Ils sont parfaitement capables de le faire tout seuls. Sal s'était tourné. Il l'observait de ses yeux impénétrables dans l'obscurité. Elle sentit sa faim, tout en tension et en retenue. Il y eut alors un éclair qui illumina brièvement la petite alcôve avant de les replonger dans l'ombre. Elle vit son visage, tendu par le besoin physique. Et elle entendit la voix de son mari, qui lui disait qu'il rentrerait au matin. Le tonnerre gronda. Sal se pencha vers elle. Elle releva la tête. « Excuse-moi, » murmura-t-elle. Elle se leva, serra les poings et s'éloigna rapidement. Sa chambre était plongée dans l'obscurité lorsqu'elle ouvrit la porte. Elle chercha l'interrupteur à tâtons, l'actionna, mais rien ne se produisit. Elle entra, referma la porte derrière elle, commença à trembler sous le contre-coup de ce qu'elle avait failli faire, ébranlée au plus profond d'elle-même. Elle n'était pas ce genre de femme, elle ne faisait pas ce genre de choses. Bon sang, quand était-elle devenue cette tarée irrécupérable ? Elle s'approcha du lit, tendit la main vers la lampe de chevet. Lorsqu'elle entendit un sifflet d'avertissement et s'aperçut qu'elle n'était plus seule. Un truc noir, énorme, courut sur son lit. Elle porta instinctivement la main à son étui d'épaule avant de se souvenir qu'elle avait enlevé son arme pour le dîner. Elle attrapa la lampe et la lança vers la forme galopante en reculant jusqu'au mur. Elle suivit celui-ci en glissant jusqu'à rencontrer le bureau à l'autre bout de la chambre. Ses doigts trouvèrent la lampe de bureau, cherchèrent fébrilement l'interrupteur, tandis qu'à l'autre bout de la pièce, elle entendait à nouveau le sifflement primitif. Elle alluma la lampe, juste à temps pour découvrir deux choses à la fois. Sur un coussin, la plus grosse et la plus terrifiante araignée du monde, cabrée sur ses pattes arrière, en train d'agiter ses crochets, et un adolescent, tranquillement assis à côté de l'araignée, armé d'un pistolet. « Mais qui êtes-vous ? » éclata Kimberly. Un peu trop tard, elle jeta un regard vers son matériel de terrain où elle avait caché son Glock 40. À 8 pas, au plus. Mais elle perdrait encore du temps à ouvrir la fermeture éclair, fouiller, sortir son arme semi-automatique. Son regard se dirigea plutôt vers la porte. À 10 pas maximum. Mais le temps de tourner la poignée, d'ouvrir, de la franchir complètement. Elle reporta son attention sur le garçon. Calme, le pistolet braqué, les mains fermes. Il ne disait toujours rien. Elle tenta un pas en avant pour voir. À l'instant même, la mygale géante se cabra et se remit à siffler. Kimberly s'immobilisa. L'araignée retomba sur ses 8 pattes, à l'affût. « Qui êtes-vous ? » essaya-t-elle encore, les yeux sur l'araignée, mais la tête tournée vers le garçon. « Que voulez-vous ? » « Il s'appelle Diablo, » expliqua-t-il sur le ton de la conversation. « C'est un Theraphosa blondi, une espèce de mygale originaire d'Amérique du Sud. La plupart des mygales n'ont pas assez de venin pour faire du mal aux humains. Leur morsure n'est pas plus douloureuse qu'une piqûre de guêpe. Mais pas Diablo. Lui peut vous arracher les doigts, lacérer la chair de vos mains. Il n'a pas encore dîné et, comme vous voyez, ça le fait un peu chier. » Les mains de Kimberly descendirent devant son ventre arrondi. Le matériel de terrain, pensa-t-elle à nouveau. Foncer, ouvrir le sac, prendre l'arme à l'intérieur. Pas moyen, le gamin pouvait appuyer sur la détente en une fraction de seconde. Quant à l'araignée, elle ne voulait pas y penser. C'est toi qui m'as appelé, risqua-t-elle. Toi qui m'as fait écouter la cassette de Veronica Jones. J'ai essayé, constata le garçon. Je vous ai donné une chance. Vous avez échoué. Je suis là maintenant. On peut discuter. Il se contenta d'agiter son pistolet. Je ne suis pas là pour discuter, ma petite dame. Je suis là pour mon examen de passage. Kimberly songea à la porte cette fois-ci. Si seulement elle arrivait à se déplacer peu à peu sur le côté, à se rapprocher suffisamment. Dinekara sait que tu t'es enfui ?
Enfui ? Et qui m'a envoyé ici d'après vous ?
Elle hésita, essaya encore. Il sait que nous sommes là ?
Tout le monde le sait. Avec toi et tes petits copains qui vous pavanaient dans toute la ville, montraient des dessins, ça n'a jamais été qu'une question de temps.
Mais c'est bien. Votre visite simplifie les choses.
Comme ça, je n'ai pas à vous traquer. On peut passer directement au clou du spectacle.
C'est ça que toi, tu veux ? Je sais ce qui se passe, ce qu'il t'oblige à faire. Ça n'a rien d'une fatalité.
Elle avança lentement d'un demi-pas.
Le garçon et la mégale ne réagirent pas.
Elle tenta un autre pas.
Dinekara enlève les prostituées, c'est ça ?
Il les ramène à la maison, il leur fait faire des choses horribles.
Et tu entends, n'est-ce pas ? Peut-être même que tu es dans la pièce, forcée d'écouter et de regarder sans pouvoir rien faire. Et quand c'est fini, il t'oblige à nettoyer le carnage. Du plastique, du papier, il met quelque chose par terre ou bien il préfère te laisser faire tout le boulot ?
Le garçon la regardait, fasciné. Elle était tombée juste, ou en tout cas pas trop loin. Elle lui parlait de toutes ces choses qu'il n'avait jamais le droit d'évoquer, et il était suspendu à ses lèvres. « Il les saigne, » murmura-t-il. « Dans une baignoire. Moins de saleté, moins de poids, ça facilite la suite des opérations. » Il les emballe ou c'est toi qui fais ça?
Ensemble. Un corps, c'est difficile à manipuler. Faut être deux.
Qu'est-ce qu'il préfère? Des vieux draps? Des sacs poubelles? De la toile à sac? Ou bien est-ce qu'il fait différents essais? Il y a le choix.
Du nylon. Des surplus militaires. C'est pas cher, efficace. Tout ce qu'il aime.
Tu l'aides à porter les corps jusqu'à la voiture? Dit-elle en avançant encore insensiblement.
On fait ce qu'on a à faire, dit-il résigné. C'est le jeu. On lui fait plaisir pour qu'il nous fasse moins mal ensuite.
Ça fait combien de temps que tu es avec lui?
Trop longtemps pour faire autrement maintenant.
C'est ton père?
Mes parents sont morts.
C'est ton tuteur?
C'est le Burgerman, dit-il d'une voix lugubre, l'araignée posée à côté de lui.
Celui qui réduit les méchants garçons en bouillie. Ce n'est pas de ta faute. Elle fit encore un pas vers son matériel de terrain et ses doigts remuaient avec impatience contre sa cuisse. On voit bien que tu ne l'aides que sous la contrainte. Si tu collabores avec moi maintenant, je pourrais arrêter ça. Je peux t'aider.
Mais le visage du garçon se referma brusquement. Son humeur changea et ce ne fut pas en faveur de Kimberly. « C'est moi qui vais arrêter ça, » affirma-t-il en levant le pistolet. « Il a déjà trouvé un remplaçant. Il est temps que je m'en aille. »
« Le petit garçon, il l'a kidnappé lui aussi. »
« Ne bougez pas, je sais ce que vous faites, alors arrêtez ça, d'accord ? Pas un geste. »«
Comment tu t'appelles ? Dis-moi comment tu t'appelles. » Laisse-moi t'aider.
Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas de nom. Il l'a pris. Il prend tout.
La voix du garçon montait dans les aigus à présent, plus nerveuse. Elle s'obligea à ne pas bouger, à rester calme. L'araignée jouait avec le pied de la lampe renversée, ce qui permettait à Kimberly de se concentrer sur l'adolescent fébrile.
Et Ginny Jones ? Demanda-t-elle à tout hasard, puisque le garçon et Ginny connaissaient tous les deux Dean et Cara, on pouvait raisonnablement penser qu'ils se connaissaient aussi entre eux. Le garçon cligna des yeux, parut pour la première fois hésitant.
« Quoi, Ginny ?»
Kimberly prit une profonde inspiration, fit un autre pari.
« Le bébé de Ginny, ce n'est pas toi le père ? Tu ne veux pas vivre avec elle un jour ?»
C'est ce qu'elle dit.
Est-ce que tu as de ses nouvelles?
Comment va? Elle est dehors, elle attend dans la voiture pour m'emmener.
Quoi?
Elle vous a choisi, vous savez, s'exclama-t-il soudain. Elle a lu que vous aviez affronté un autre tueur. Elle a cru que vous aviez un genre de baguette magique. Je lui ai dit qu'elle était folle, comme si une minette avec une plaque pouvait vraiment changer quoi que ce soit après toutes ces années. J'imagine que ça n'a plus d'importance. Vous avez échoué, donc me voilà, moi et mon petit copain, comme disait Al Pacino, prêt à remplir ma mission.
Mais voyons, Dean et Cara ne laissera jamais partir aucun de vous deux.
Tu l'aides à se débarrasser des cadavres. Ginny lui rapporte de l'argent. Pourquoi elle te laisserait réussir ton examen de passage?
Il a un remplaçant. Un petit garçon, trop jeune pour l'aider à transporter un corps.
On les pose sur des civières. On les traîne dans la montée. Le gamin sera bientôt assez fort.
Jusqu'à Cooper Gap ? Demanda-t-elle d'un air incrédule. Il mordit à l'hameçon.
Cooper Gap ? Mais de quoi vous parlez ? On a notre propre itinéraire sur Blood Mountain, au-dessus des petits louveteaux qui gambadent. Se débarrasser d'une pute, regarder un petit garçon pisser, ça fait de belles journées avec le Burgerman.
Ce n'est pas de ta faute. Dit doucement Kimberly avec conviction, à trois pas de son sac maintenant.
Si proche, oh si proche.
Tu dois bien te rendre compte que ce n'est pas de ta faute.
Je veux juste réussir ce putain d'examen de passage, vociféra le garçon en se redressant brusquement. Le mouvement surprit l'amigale, qui se cabra tout crochet dehors. Le garçon se retourna, pointa le pistolet, et appuya sur la détente.
La mygale et la lampe explosèrent sur le lit. Kimberly fit un bond en avant et sentit des éclats de céramique la piquer comme des shrapnels et lui rentrer dans la peau. Elle put faire encore 3 pas avant que le garçon ne hurle « Pas bouger !» Elle était arrivée à son sac, les doigts sur la fermeture éclair. Mais elle se força à baisser les mains, à prendre une inspiration profonde, à regarder le garçon posément. Il saignait lui aussi, sur le nez, la joue, le menton, le cou. « Je vais te chercher une serviette, » commença-t-elle. « Il m'a fait des choses horribles, » dit-il avec abattement. « Vous n'imaginez pas. » Et après, j'ai fait des choses horribles parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et ça dure depuis si longtemps maintenant. Je ne sais même pas. J'ai eu des parents à une époque. Enfin, je crois. Je suis fatiguée. Je suis juste tellement fatiguée. Parle-moi. Aide-moi à comprendre. Ginny veut qu'on se marie, continua-t-il comme si elle n'avait rien dit. Elle veut qu'on s'en aille, qu'on ait notre bébé, qu'on forme une famille. Je ne sais pas ce que c'est, une famille. On peut faire en sorte que ça se réalise. Il n'est pas trop tard. Je trouverai un boulot. Je porterai une cravate. J'ai même pas fini l'école primaire. Qu'est-ce que ça donne comme boulot? Je sais baiser, enlever des petits-enfants et assassiner des putes. Où est-ce qu'on a besoin de ça sur le marché du travail? Trouvez-la moi, la petite annonce. Tu es jeune, tu as encore le temps. Elle ne sait pas ce que j'ai fait, c'est tout. Elle croit que c'est Dinecara, mais non, ce serait trop simple. Il m'a donné le pistolet. Appuie sur la détente, petit. Fais pas le con. Tu sais qu'elle courrait le rejoindre si elle pouvait. Appuie sur cette foutue détente. Alors je l'ai fait. Et ensuite il était mort. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle comprenne ou que Dinecara le lui dise, juste pour rigoler. Tu as descendu Tommy Mark Evans. Il fallait. Vous ne comprenez pas. L'entraînement, vous voyez, pour mon examen de passage, pour que je puisse enfin être libre. Du sang avait perlé sur les entailles de son visage et commençait à dégouliner lentement, comme une trace de larmes. Il leva à nouveau le pistolet, visa soigneusement. La main de Kimberly se précipita sur son sac, ses ongles grattèrent frénétiquement la surface en nylon. Bordel, pourquoi avait-il fallu qu'elle tire la fermeture éclair? Elle n'allait jamais y arriver. Le pistolet se levait, pointait. Elle attrapa le sac, le tint devant son ventre rond, comme si ça allait changer quelque chose. « Je ne peux pas être papa, » murmura le garçon. « Je ne peux pas être près de petits-enfants. Tout ce que je sais faire, c'est les détruire. » Et là, en une fraction de seconde, le pistolet se détourna, trouva la tempe du garçon. La voix de Kimberly se mit à hurler « Non !» Ne laisse jamais ton bébé rencontrer quelqu'un comme moi. Ne le laisse jamais tomber entre les mains du Burgerman. Il appuya sur la détente. Le tir assourdit Kimberly. À moins que ce ne soit son propre cri désespéré lorsqu'elle tenta de le retenir, lorsque l'arrière du crâne du garçon s'ouvrit, fut projeté contre le mur, répandit de la matière grise sur la table de chevet. Elle criait toujours lorsque son père força la porte, que Rainey et Sal s'engouffrèrent dans la chambre, que le corps du garçon tomba finalement avec un choc mat sur la moquette, et qu'elle vit un œil aveugle la regarder d'un air accusateur, alors qu'elle ne connaissait toujours pas son nom.